RFI, 6h44 en temps universel. Et en cette journée mondiale de la liberté de la presse, au lendemain de la publication du rapport annuel de Reporters sans frontières, c'est en Syrie que nous partons à présent. Pays classé 177e sur 180 par RSF, mais qui a gagné 2 places en 1 an, car la chute du régime de Bachar al-Assad a mis fin à la censure implacable et à la répression brutale des journalistes. Les portes du pays se sont rouvertes aux journalistes étrangers et à ceux qui s'étaient exilés. Le nouveau chef de l'État, Ahmed al-Sharry, a promis de faire respecter la liberté d'expression. Certains veulent y croire, d'autres restent méfiants. Reportage à Damas de Sophie Guignon.
Nous sommes actuellement dans l'hôtel Sheraton à Damas et nous avons transformé une partie des chambres de l'hôtel en studio temporaire pour Syria TV.
Travailler et émettre depuis Damas. Une scène encore impensable il y a quelques semaines pour Mohamed Al-Duraim, producteur de la chaîne Syria TV, un des médias d'opposition les plus suivis en Syrie, dont le siège est à Istanbul, en Turquie.
Nous sommes arrivés à Damas progressivement avec les forces rebelles au fil des offensives militaires. D'abord Alep, puis Hama, puis Homs et enfin Damas. C'est la première fois que l'on parle de Damas en étant à Damas. C'est un très beau sentiment pour tous les Syriens et pour tous les journalistes.
Financé par le Qatar, Syria TV compte 250 employés répartis entre la Syrie et la Turquie. Sur la terrasse de l'hôtel, un plateau télé a été érigé. La chaîne diffuse des informations en direct 3 à 4 heures par jour depuis Damas. Pour le producteur originaire d'Idlib, c'est le début d'une nouvelle ère.
Aujourd'hui, on peut parler de tout en Syrie sans être inquiété, sans que les services de renseignement ne vous convoquent et sans risquer d'être emprisonné. L'avenir des médias en Syrie est bien meilleur qu'à l'époque de Bachar al-Assad.
Après 54 ans de dictature, durant lesquels aucune critique du pouvoir n'était tolérée, la nouvelle administration, dirigée par Hayat Tahrir al-Sham, l'un des groupes rebelles qui a repris Damas, a annoncé début janvier s'engager en faveur de la liberté d'expression, avec quelques limites. Ali Al-Rifai est directeur des relations publiques au ministère de l'Information.
Dans la nouvelle Syrie, nous garantissons la liberté de la presse, mais il existe des lignes rouges sur certaines questions, comme la diffusion de la haine au sein de la société ou tout ce qui touche à des sujets susceptibles d'attiser les tensions sectaires. Ne pas préserver la cohésion sociale est aussi une ligne rouge.
Le ministère a aussi annoncé que les journalistes ayant collaboré avec le régime devront rendre des comptes. Dans les cafés de la capitale, de nombreux Syriens se retrouvent pour débattre à haute voix de l'avenir du pays. Une scène, elle aussi inimaginable, il y a peu. Colette Bahna, écrivaine, savoure cette liberté retrouvée.
Nous sommes heureux d'avoir cette nouvelle liberté d'expression. J'ai énormément confiance dans la société syrienne qui est aujourd'hui très éveillée. Rien ne passe inaperçu. Il y a une pression populaire contre toute décision qui serait inappropriée.
Pour de nombreux Syriens, la prudence reste de mise. Seul le temps permettra de savoir si ces promesses de liberté dureront. Sophie Guignon, de retour de Damas, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr. Et c'est une histoire méconnue que nous raconte notre grande invitée Afrique ce matin, celle de Stokely Carmichael et de Myriam Makeba. Lui a été un militant révolutionnaire noir américain, l'un des responsables du mouvement Black Panther. Elle était une chanteuse sud-africaine engagée contre l'apartheid, connue sur tout le continent. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils ont été en couple et se sont installés en Guinée à la fin des années 60. La chercheuse Elara Berto raconte aujourd'hui cette histoire dans un ouvrage intitulé « Un couple le panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée. Elle nous en parle au micro de Laurent Corot.
Bonjour Elara Berto.
Bonjour.
Pourquoi Stokely Carmichael et Myriam Makeba viennent-ils s'installer en Guinée en 1968 ?
Parce qu'ils sont en partie pourchassés par la CIA et le FBI qui ont cette opération Cointel Pro de déstabilisation des leaders des droits civiques américains. Carmichael est emprisonné de nombreuses reprises, violemment agressé par la police plus de 17 fois. Et ils décident tous les deux d'accepter l'accueil diplomatique que leur offre ses couturiers.
Comment est-ce qu'ils sont accueillis à Conakry à l'époque, comme des stars ?
Ils sont absolument accueillis comme des stars. Ils sont accueillis personnellement par André Touré et Sékou Touré, donc le couple présidentiel, et ils vont se mouler dans un univers cosmopolite d'artistes, de militants du monde entier. Ils croisent par exemple Amilcar Cabral, le grand militant du PAIGC, la famille Andrade, et donc ils vont être dans cette atmosphère extrêmement riche et culturelle de Conakry cosmopolite début des années 70.
C'est une partie de leur vie d'ailleurs dont on parle habituellement assez peu, notamment dans le cas de Stokely Carmichael, dont on connaît plutôt l'engagement aux côtés des Black Panthers, et pourtant l'un et l'autre, Carmichael et Myriam Makeba, vont faire une partie importante de leur vie à Conakry.
Oui, tout à fait, c'est pas du tout anecdotique dans leur carrière. Carmichael, il passe 40 ans de sa vie en Guinée, il va décéder en Guinée en 1998, et l'ensemble de l'historiographie est assez polarisée par la carrière américaine, par ces années 60. Or, ce que je voulais faire dans cet ouvrage, c'est réafricaniser ces deux trajectoires qui ont pris fait et cause pour le socialisme africain, pour la révolution culturelle que voulait faire Sékou Touré. Et il y a eu un branchement intellectuel entre le couple Touré et entre le couple Makeba et Carmichael. C'est-à-dire que ils se sont pris de passion pour ce que Sékou Touré a appelé l'authenticité guinéenne, d'abord pour la musique, puis pour le théâtre, puis tout un pan de la société, qui a coïncidé avec ce que Carmichael défendait dans les mouvements militants, le Black Panther Party ou autres, de Reclaim Our History, réhabiliter l'histoire africaine, la part africaine de l'histoire. Et donc, au-delà de l'amitié qui a réellement existé, c'est aussi une concordance des imaginaires.
Et donc, cette affinité intellectuelle va conduire Carmichael et Myriam Makeba à s'engager pour la révolution guinéenne et l'État-parti. De quelle manière l'un et l'autre vont s'engager?
Alors, Myriam Makeba va enregistrer énormément de vinyles dans le label d'État Siliphone, le label guinéen, en poulard, en maninka, en soussou et en français. Et donc, elle va chanter les éloges de Sékou Touré, du panafricanisme révolutionnaire, du socialisme du Parti démocratique de Guinée. Et elle va chanter également à chaque fois qu'il y a des hôtes diplomatiques de marque à Conakry. Dans le protocole, il y avait un concert de Myriam Makeba au Palais du Peuple.
Sékou Makeba.
Sékou Samaké dans la voix de Myriam Makeba qu'on entend derrière nous. Cette chanson, Ella Roberto, c'est une chanson à la gloire du président Sékou Touré finalement.
Absolument, elle reprend le modèle de l'éloge en maninka. Sékou, le chef, tu es jeune, tout ce que tu refuses ne sera pas fait. Sékou, je te salue. Donc c'est une manière de chanter ses louanges dans le modèle guinéen qu'elle adopte.
Et Stokely Carmichael, lui, comment est-ce qu'il s'engage justement en faveur de la révolution guinéenne?
Lui, il arrive en Guinée en étant absolument ravi de pouvoir se mettre au service d'un autre hôte de marque, à savoir Kwame Nkrumah, qui a été destitué du Ghana et qui trouve refuge dans ce Conakry cosmopolite dont on vient de parler. Il veut, dans un premier temps, remettre Kwame Nkrumah en selle politiquement, d'abord par la guérilla, il se forme, et puis finalement ça ne se fait pas, et il se met à l'étude des textes de Kwame Nkrumah. Et progressivement, il va reprendre le parti non étatique panafricain que vient de fonder Kwame Nkrumah à Conakry, qui s'appelle le All African People Revolutionary Party. Même à la mort de Kwame Nkrumah, il va reprendre ce parti et en faire un parti dédié au texte de Kwame Nkrumah et au texte de Sékou Touré dont il s'attelle, si ce n'est à faire la traduction, du moins à faciliter les traductions et les éditions en anglais. Donc il est comme un pont transatlantique entre Conakry et les mouvements militants états-uniens.
Et Ella Roberto, merci.
Merci à vous.
Ella Roberto, invitée de Laurent Corot, son ouvrage « Un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée » est paru aux éditions Robotrick. 8h53 à Paris, on en décompte près de 34 000 chaque année en Côte d'Ivoire. Quelle prise en charge pour les naissances prématurées? Comment réduire la mortalité néonatale? C'est l'objectif que se sont fixés l'UNICEF et le fonds Muskoka il y a 6 ans avec le gouvernement ivoirien pour développer en complément des couveuses des hôpitaux le programme SMK, soins mère kangourou, une méthode de contact peau à peau entre la mère et le bébé qui fait ses preuves. Avec déjà de très bons résultats, nous sommes au CHU de Trècheville, à Abidjan, et c'est un reportage de Marine Janin.
Entre les pleurs des bébés et les discussions à voix basse des jeunes mères, l'atmosphère est feutrée dans le service Mère Kangourou. 16 femmes et leurs bébés sont actuellement logés, encadrés et soignés dans cette unité. Parmi elles, Fatima Wandao, 23 ans, porte entre les seins un bébé d'un mois, son premier enfant. L'hôpital a dû déclencher son accouchement avant terme, raconte-t-elle, à cause d'une complication survenue à 6 mois de grossesse.
Il a envoyé en pouveuse. Le bébé était trop petit. Je me suis dit, est-ce que je peux m'en sortir? Quand je le voyais dans la pouveuse, là, il ne me sentait pas trop ça parce qu'elle était trop petite. Puis quand elle est venue ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre soin d'elle. Et puis les mamans qui sont ici, ils m'ont aidée.
La méthode est simple, explique l'infirmière Nicole Owo. Garder en permanence les bébés au contact de leur mère grâce à un foulard étroitement noué, comme pour prolonger la grossesse hors du ventre maternel.
On porte les bébés peau à peau à la poitrine des mamans. Et c'est cette chaleur-là qui permet à l'enfant de se développer. Et ça marche. Parce qu'on a les bébés qui viennent à 600 grammes. On les voit aujourd'hui. Ils sont normaux comme les autres bébés.
Le porté kangourou aide l'enfant à se développer, mais aussi la mère à garder un bon état psychologique, car les risques de dépression postpartum sont accentués après un accouchement prématuré. Le docteur Somé Méazieux dirige l'unité Mère Kangourou.
Ça permet à la maman aussi de regagner en confiance, parce que fait un prématuré, on se culpabilise, on est traumatisé. Donc la mère elle-même, elle voit l'enfant grandir, progresser. Parce que chaque jour, on fait les peser. 5 grammes aujourd'hui, 10 grammes aujourd'hui, demain 20 grammes au fur et à mesure. Et donc, elle sent l'enfant même grandir. Donc quand on atteint le kilogramme, on célèbre.
15 centres de soins Mère Kangourou sont déjà fonctionnels, avec l'objectif de doubler ce nombre d'ici 2030. Le gouvernement aimerait appliquer ce programme à l'échelle nationale, encouragé par les bons résultats que souligne Marianne Astierbourg, représentante par intérim de l'UNICEF dans le pays.
Dans ce centre, je crois que pour l'année dernière, on a eu un taux de survie de 99%. 99%, c'est très important. Beaucoup de ces enfants auraient pu décéder. En effet, c'est une question de vie et de mort.
La prématurité reste l'une des principales causes de mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, elle est responsable de près de 30% des décès néonataux. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et à Abidjan, il est bientôt 7h, notre reportage Afrique que vous retrouvez bien sûr en ligne. Et l'info continue sur la Radio du Monde. L'actualité des médias, comme chaque samedi. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour.
On parle avec vous des inquiétudes autour de l'exception culturelle française qui se trouve aujourd'hui au cœur du bras de fer entre les États-Unis et l'Union européenne.
Oui, l'exception culturelle, c'est ce terme inventé en 94 pour défendre le droit d'un pays à protéger sa culture par des subventions, des mesures de soutien ou des quotas. Si la France a pu défendre son cinéma, ses séries et ses dessins animés, c'est en grande partie grâce à ce dispositif d'exception par rapport au traité de libre-échange. Les œuvres du cinéma et de l'audiovisuel bénéficient de l'aide du CNC, le Centre National du Cinéma. Les diffuseurs sont soumis à des quotas d'œuvres européennes ou d'expression française. Une taxe sur les billets des salles de cinéma finance les films indépendants. Et depuis 2021, les plateformes américaines ont aussi l'obligation d'investir 20% de leur chiffre d'affaires dans la production en France. Ce sont ainsi près de 350 millions d'euros par an qui ont été injectés par Netflix, Disney+, ou Prime Video dans l'audiovisuel et le cinéma français. Or voilà que ce bel édifice pourrait être remis en cause dans le cadre des discussions autour des barrières douanières entre l'UE et les États-Unis.
Car l'administration Trump souhaite revenir sur ses obligations, Amaury ?
Eh bien, le 21 février, elle a publié un mémorandum qui dénonce les régulations étrangères et en particulier européennes qui désavantagent les entreprises américaines en taxant leurs plateformes ou en fixant des obligations d'investissement comme le prévoit la directive sur les services de médias audiovisuels. L'administration Trump recommande des mesures de rétorsion douanière et elle est d'ailleurs soutenue dans ce combat par le syndicat des réalisateurs américains et par la Motion Picture Association, le lobby des majors hollywoodiennes et des plateformes qui parlent de pratiques déloyales.
Et la législation européenne est aussi pointée du doigt par les États-Unis.
Oui, deux textes clés de l'Union sont visés, le règlement sur les marchés numériques ou DMA sur les pratiques anticoncurrentielles et le règlement sur les services numériques ou DSA sur la régulation des contenus. Ce sont ces textes qui permettent à la Commission de prononcer de lourdes sanctions qui se chiffrent parfois en milliards d'euros. On l'a vu récemment lorsque Apple et Meta ont été condamnés à 500 et 200 millions d'euros d'amende au titre du DMA, une sanction qui a été décidée sans grande publicité par Bruxelles, qui craint d'envenimer la guerre commerciale avec Washington. Les défenseurs de l'exception culturelle craignent aussi qu'une révision dans un sens plus libéral de la directive sur les services de médias audiovisuels l'an prochain soit l'occasion d'amoindrir les règles au profit des plateformes américaines.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Comment les nazis sont-ils arrivés au pouvoir en 1933? Pourquoi Hitler a-t-il été nommé chancelier alors que son discours était antidémocratique, inégalitaire et haineux à l'égard des juifs? Et comment comprendre cette langue dont les nazis ont fait une arme puissante et politique?
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.